Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.
Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Yosef Azoulay des éditions Lishma et le docteur Gérard Alouche, l'auteur de Mémoire et traumatisme dans le judaïsme, qui vient de paraître aux éditions Lishma. Bonsoir Yosef, bonsoir Gérard Alouche.
Bonsoir à tous.
Yosef, vous êtes un habitué d'ici, hein. Ce n'est pas la première fois que l'on vous convie dans cette émission. On rappelle que vous dirigez la maison d'édition Lishma depuis près de 13 ans maintenant, j'ai calculé plus ou moins. Est-ce que c'est ça? C'est la bar mitzvah?
Non, ça fait le double. En fait.
Le double, 26 ans?
Oui.
Alors deux fois la bar mitzvah. Vous proposez essentiellement des ouvrages de pensée juive, de commentaires des sources de la tradition juive, des biographies de figures marquantes du monde juif et des livres pour enfants. Comment décririez-vous votre ligne éditoriale et comment celle-ci a-t-elle évolué au travers de ces 26 années?
Je décrirais en fait ma ligne éditoriale de la manière suivante. C'est une ligne éditoriale qui se veut profondément juive, mais aussi universelle. Et je fais vraiment très attention que dans chaque ouvrage que nous publions, que nous avons l'honneur de pouvoir éditer, nous ayons cette double vision. Vraiment une vision qui essaye de faire transmettre les trésors du judaïsme, et puis qui essaye de toujours d'établir le lien avec l'universalité qui se trouve en nous.
Qu'est-ce à dire que finalement le message du particularisme juif est avec une vocation universelle, qu'il peut s'adresser au plus grand nombre, à toutes les nations?
Absolument. D'ailleurs, les livres de Lishma se trouvent aussi en FNAC, se trouvent aussi dans toutes les librairies.
Est-ce que c'est un défi aujourd'hui et hier de proposer une maison d'édition focalisée sur des ouvrages à thématique juive?
C'est le fait de faire une édition, c'est toujours un défi, ne serait-ce qu'un seul ouvrage. C'est pouvoir proposer un enseignement pour pouvoir donner une compréhension. Et cela n'est pas évident, mais c'est un trésor. Et se faire comprendre des autres, ben, c'est effectivement le défi. Et pouvoir attirer l'attention et l'intérêt de celui qui nous entend sans qu'il puisse s'endormir, ben, si on y a réussi, c'est véritablement un objectif.
Quels sont vos critères de sélection des ouvrages et des auteurs?
Ben, c'est un critère qui essaye d'aller vers une particularité, vers quelque chose que l'on n'a pas obligatoirement entendu, vers une pédagogie qui est aussi peut-être plus adaptée à notre monde, à l'actualité.
Alors justement, cette actualité, c'est les massacres du 7 octobre, la déferlante antisémite qui en a résulté. Est-ce que ça change quelque chose dans votre catalogue? Est-ce que ça a changé quelque chose ou est-ce que ça changera quelque chose?
C'est une bonne question, mais je ne crois pas fondamentalement que cela change quelque chose. Parce qu'une maison d'édition, enfin, telle que moi je le conçois, elle a sa ligne éditoriale et une ligne éditoriale ne peut pas évoluer, bien entendu. Elle évolue suivant des réponses que l'on doit apporter aux problèmes qui se posent dans l'époque dans laquelle nous vivons. Mais la ligne éditoriale même, suivant les deux critères que je viens de poser, non, ne change pas.
Quels sont les ouvrages les plus marquants que vous avez publiés au cours de ces années?
En fait, Lishma s'est développé avec plusieurs collections. Il y a des collections pour les enfants et même pour les plus grands, l'apprentissage de l'hébreu, de la lecture, de l'écriture. Dans la même veine, J'ai la chance de travailler avec un artiste connu qui s'appelle Franck Lalou. Et on a fait un ouvrage vraiment assez excellent qui est sur la pratique de la calligraphie hébraïque. Puis, il y a des ouvrages d'histoire. Le judaïsme de Tétouan avec José Garzon. On va parler de Yom HaShoah avec Gevura. Le chant des remparts de Myriam Maman. On va y arriver aussi.
Alors, il y a aussi des ouvrages dans l'actualité. Vous parliez de plusieurs collections pour enfants en particulier. Il y a ces contes de Simone Hirschler, Le mariage merveilleux, autre conte d'Israël. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui. En fait, cela fait maintenant plus de 10 ans lorsque j'ai eu la chance d'être proche de Jean-Jacques Val. Jean-Jacques Val, qui a un moment été le président qui s'est occupé de l'Alliance israélite, universelle, m'a proposé de rencontrer Alain Hirschler et de publier les contes qui ont été écrits et rédigés par sa femme-mère, Madame René Hirschler, qui était l'épouse du grand rabbin René Hirschler de Strasbourg. Et quand j'ai lu ces contes et surtout la biographie de cette personnalité, j'en ai été extrêmement ému.
Alors, il faut rappeler l'épisode de la Seconde Guerre mondiale et le courage dont les époux ont fait montre.
Oui, tout à fait. C'est d'abord peut-être une anecdote. Le grand rabbin René Hirschler, qui était le grand rabbin de Strasbourg avant-guerre, son grand-père, c'était Edmond Hirschler, qui n'était autre que un des secrétaires d'Alexandre Dumas. Donc il y a une qualité d'écriture qui est remarquable. Mais à part ça, le grand rabbin René Hirschler et son épouse Simone avaient le sens du devoir. Chaque jour sous l'occupation, tant qu'ils l'ont pu, ils allaient voir les prisonniers juifs, ils allaient leur donner à manger, les réconforter. À un moment donné, il a fallu cacher les enfants. Ils ont caché les enfants, on leur a demandé, on les a même presque suppliés de rester auprès de leurs enfants et de se cacher, sachant que ce serait inévitable, ils seraient pris par les Allemands, par les nazis. Et ils ont refusé. Il ne fallait pas manquer un seul jour au devoir qu'ils s'étaient donné, qui était le leur. Et ils ont été finalement pris par les nazis, et ils ont terminé à Birkenau.
C'est difficile de prendre la parole après, mais il faut dire que cet ouvrage, avec sa couverture cartonnée, ses magnifiques illustrations, en font un cadeau privilégié à offrir ou à s'offrir pour nos enfants ou petits-enfants. Comment s'est fait le choix de l'illustrateur ?
En fait, c'est une deuxième édition. La première édition était une édition très artistique, avec une très grande qualité des illustrations faites par Madame Anne de Rothschild. Mais des librairies m'ont demandé quelque chose de plus actuel, qui allait plus dans le sens des enfants. Un peu aujourd'hui comme a été le choix et des éditions qui publient Martine, la série destinée aux enfants. Et ils ont choisi de changer leur infographie. Et donc on a choisi, dans un contexte un peu de style Walt Disney, qui fait rêver, donc de publier toutes ces Agadot Chazal, ces légendes, ces contes et légendes des maîtres d'Israël, qui ont été réécrits avec de la magie, du fantastique, du merveilleux, avec ce style-là.
Alors qu'ils sont portés, avec les illustrations, il faut dire que c'est remarquable. Quand on est à court d'idées, chaque soir pour raconter une histoire, on en prend une, on la lit en une fois, en deux fois, en trois fois, et les enfants sont très attentifs et très demandeurs.
Il y a dans ce livre 18 contes. Le chiffre 18 est bien sûr symbolique, Chai, la vie. Le vivant. Mais c'est un livre de près de 178 pages. et avec une qualité des lettrines. C'est vraiment un livre qui fait rêver.
Alors, vous parliez il y a un instant de votre rencontre avec ses écrits par l'entremise de Jean-Jacques Valle, hein, qui était quelqu'un de très important à l'Alliance israélite universelle. Et il a publié chez vous l'illusion des illusions sur Qohelet, l'Ecclésiaste. Est-ce que vous pouvez nous en parler également?
Là aussi, bon, Jean-Jacques Valle est une personne à qui je dois beaucoup, qui m'a énormément soutenu. Et qui avait déjà publié une traduction de Qohelet aux éditions des Clés de Beauvoir. Et à un moment donné, une nécessité s'est faite de faire quelque chose de nouveau. D'abord en rajoutant le texte hébraïque, mais aussi avec des photographies identiques qui présente le monde dans sa nature et qui donne à réfléchir.
Alors, il faut parler du format, hein, assez original, de la constitution, parce qu'on voit que vous prenez un soin tout particulier à la réalisation des ouvrages qui en font des beaux cadeaux.
Oui, bien sûr. Juste sur la table, nous avons un format 21 x 21 cm. Bon, ça ne nous dira rien, mais c'est un format carré. Et d'un autre côté, ce sont des livres reliés. D'un autre côté, nous avons un format italien oblong. Et puis nous avons aussi un format 5 assez populaire.
Et puis il y a un autre livre que vous nous avez apporté, c'est les Pirkei Avot, les Maximes des Pères, avec une édition bilingue. Est-ce que c'est une réédition aussi?
Oui, et là c'est aussi quelque chose de vraiment de très particulier, parce que aussi, tout à l'heure Sandrine, vous m'avez posé la question de en quoi cela a... Nos éditions ont pu évoluer. Ben, il y a quelque chose qui s'est fait naturellement, mais qui a été pour moi un grand honneur, c'est en fait de redonner vie. De redonner vie à certains auteurs, de redonner vie à certaines éditions. Qui n'a pas connu il y a 30 ans les éditions Colbo et les Maximes des Pères, un format très petit, de poche presque, mais qui présentait la traduction du grand rabbin Moshe Shull, des fameuses Maximes des Pères des Pirkei Avot. Ces Maximes des Pères sont des trésors, des sentences de morale, des réflexions profondes et qui inspirent, qui traversent le temps et qui nous inspire. Et voilà, nous avons voulu rééditer donc cette édition en mettant à nouveau le côté hébraïque en face à face, en faisant une édition pédagogique. On a revu la présentation entièrement pour qu'elle soit beaucoup plus accessible et on l'a agrémenté aussi d'articles sur la chaîne de la transmission du judaïsme.
Finalement, Yosef, comment vous définiriez l'ADN des éditions Lishma?
Par son nom.
Lishma.
Exactement. Le mot Lishma veut dire pour son nom à elle. Et à l'origine, je n'étais qu'un étudiant et je voulais transmettre. Je commençais à donner quelques cours en hébreu, quelques cours de judaïsme. Et je me suis dit, mais si je donne un cours à une personne, serait-ce possible de faire en sorte que ce cours puisse être diffusé à plus de personnes que seulement à une personne? Et donc, j'ai réfléchi à cela. Et j'avais dans mon fond intérieur la volonté de donner ce que je pressentais, ce que je ressentais, ce que je concevais, des trésors que j'avais reçus de mes maîtres.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Yosef Azoulay, des éditions Lishma, et d'un de ses auteurs, le docteur Gérard Alouche. Bonsoir Gérard. Alors, qu'est-ce que vous inspire ce que vient de dire Yosef Azoulay?
Bonsoir Sandrine. Alors moi, je suis effectivement un des auteurs de Yosef, que je connais depuis depuis assez longtemps, je dois dire. Hein. On s'est rencontrés parce qu'on fréquente la même synagogue, à vrai dire. Et en fait, moi, à l'origine, j'avais un projet d'ouvrage qui était plutôt axé sur le rêve. J'ai eu quelques publications là-dessus, notamment sur le rêve dans le Talmud, et sur les intrications entre la psychanalyse et la pensée juive. Et puis, j'ai un peu dévié. Alors, le 7 octobre, pour moi, a été plutôt un catalyseur vraiment quelque chose qui m'a décidé à publier sur ce thème, parce que j'avais déjà un peu commencé à écrire sur la mémoire traumatique et ses intrications avec ce que pouvait en dire la Bible et le judaïsme. Et le 7 octobre, pour moi, a été, comme je pense la majorité des juifs dans le monde, une espèce d'électrochoc, un traumatisme collectif qui agit sur moi et sur l'ensemble, je pense, du peuple juif, en tout cas la grande majorité. Et ça m'a incité à reprendre un petit peu mes réflexions et à m'axer sur ce thème-là, de la mémoire.
Alors on va le rappeler, hein, le thème de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Lishma, « Mémoire et traumatisme dans le judaïsme, souviens-toi et n'oublie pas, une approche analytique » et qui sonne en plus avec une percutante actualité à la veille du Yom HaShoah. Alors la genèse de cet ouvrage, donc, c'est une des idées que vous aviez, que vous avez décidé de reprendre à l'aune du 7 octobre, mais est-ce que vous pouvez vous présenter nous dire en quelques mots qui vous êtes et comment l'approche psychanalytique est un élément qui vous tient à cœur.
Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis psychiatre. C'est une activité donc, de psychiatrie libérale. Alors, l'approche psychanalytique, c'est que j'ai aussi une formation analytique. J'ai été moi-même analysé en analyse avec un membre de la SPP, Société Psychanalytique de Paris. J'ai une activité qui n'est pas une activité de psychanalyste, mais une activité de psychiatre. Et j'ai longtemps réfléchi aux intrications, si vous voulez, entre la psychanalyse et la pensée juive, puisque, si vous voulez, alors, dans ma pratique quotidienne, ça ne fait aucun doute, je suis confronté au traumatisme, on va dire, de façon quasi quotidienne et quasi permanente. Et ma fréquentation de la synagogue, des écrits du judaïsme, m'ont interpellé sur des liens qu'on pouvait faire entre certaines notions, comme là c'est la mémoire, mais il n'y a pas que la mémoire. Hein. Il y a quand même une intrication de thèmes qu'on retrouve à la fois dans la pensée juive, que ce soit dans la Bible, dans les écrits ou dans les textes des penseurs. Et dans la psychanalyse, il y avait des choses que je trouvais qu'on pouvait mettre en parallèle, et c'est un petit peu ce que j'essaye de faire dans cet ouvrage.
Alors justement, les Juifs sont le peuple de la mémoire. Chaque élément, notamment du calendrier hébraïque, est une remémoration d'un événement passé de l'histoire qu'il ne faut pas oublier. Est-ce que d'un point de vue psychanalytique, l'importance du souvenir n'est pas paradoxalement un obstacle à franchir? Est-ce qu'on peut finalement s'affranchir des traumatismes plus difficilement quand on est juif?
Alors, quand on est juif, je ne sais pas, on va dire que le judaïsme est émaillé de traumatismes. On peut dire, même à la limite, qu'on est peut-être un des peuples, je ne vais pas dire le peuple, mais un des peuples qui ont le plus souffert dans leur histoire. Si vous voulez, c'est un peu ce que disait Youssef tout à l'heure, entre différence entre le particularisme et l'universalisme. Je pense que ce qui peut s'appliquer au judaïsme peut aussi s'appliquer d'une façon générale à d'autres situations, à d'autres cultures. Par exemple, quand on parle du traumatisme, bien sûr, dans le judaïsme, alors on peut parler des premiers traumatismes. Et donc ces premiers traumatismes, on va dire, qui est un peu le prototype, l'archétype de l'antisémite, c'est évidemment Amalek, et j'en parle quand même pas mal dans mon livre. Alors, à partir de ce premier traumatisme, il y en a eu d'autres, alors, l'aspect de répétition, vous avez raison. Dans ce sens-là, la mémoire a aussi une relation avec la répétition. Alors, Freud disait de se souvenir pour ne pas répéter. Alors, et on est dans le traumatisme, dans les pathologies post-traumatiques, dans un paradoxe que vous avez raison de soulever, c'est que finalement, on aurait plutôt intérêt à oublier, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que y a des choses qui vous ramènent systématiquement et régulièrement ce que vous avez vécu. Dans les syndromes de stress post-traumatique, par exemple, vous avez les cauchemars récurrents, Vous avez des flashbacks, vous avez des choses qui vous ramènent constamment au traumatisme. Alors oui, le peuple juif est un peuple qui s'est structuré sur quelque chose de l'ordre de la mémoire traumatique, mais on peut dire qu'on peut appliquer ça aussi à beaucoup d'autres cultures.
Vous parliez il y a un instant du 7 octobre, hein, ces massacres. Aucun juif, ni en Israël, ni en diaspora, n'en est sorti indemne. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous aiguiller, est-ce qu'on peut arriver à vivre normalement après ce traumatisme qui, parfois, en a réveillé d'autres ?
Vivre normalement après un traumatisme comme ça, franchement, je crois que c'est quelque chose qui mobilise pour le restant de la vie. Et vous savez, les personnes qui ont été directement victimes du 7 octobre, évidemment, ce sont les premiers à en avoir souffert. Mais regardez, quand on parle de mémoire collective, par exemple, il suffit de regarder un peu autour de soi, et c'est ce qui est dit aussi dans la Haggadah de Pessah, hein, finalement, on est tous comme si on était soi-même sortis d'Égypte, comme si on était soi-même, on avait été victime de l'esclavage égyptien. Et c'est peut-être une analogie qu'on veut faire, finalement. Le traumatisme, c'est quelque chose qui mobilise et qui modifie profondément l'économie psychique de l'individu. Et pas uniquement de celui qui en est victime, de ceux qui en sont aussi témoins, que ce soit les témoins directs ou maintenant avec les réseaux sociaux, on peut dire qu'on est vraiment quasiment en direct tout le temps de tout ce qui peut se passer. Et on est tous, finalement, on s'approprie tous d'une certaine façon dans le cadre d'une mémoire collective. Par exemple, ce qui a pu se passer le 7 octobre, pour ne pas parler de la Shoah, évidemment, qui représente vraiment un traumatisme, vraiment, je pense, extrême de ce qu'a pu connaître le peuple juif et l'humanité.
Dans le titre, il y a un sous-titre, enfin, il y a même deux sous-titres, « Souviens-toi et n'oublie pas ». Quelle différence vous faites entre le souvenir et l'oubli ?
Alors, une différence, on peut faire une différence, mais je dirais plutôt que ce sont deux mécanismes qui sont complémentaires l'un de l'autre. Alors, le terme « zahor », alors que j'ai traduit par « souviens-toi », qui est traduit comme ça d'ailleurs la plupart du temps, « zahor » fait appel à ce qu'on appelle plutôt le souvenir actif, hein, puisque « zahor », si on prend étymologiquement, la même racine que le mot « zahar » qui veut dire « masculin ». Donc le souvenir, donc le rappel de mémoire, fait appel à quelque chose de plutôt actif. On va dire ça schématiquement. Alors que l'oubli, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que l'oubli peut être quelque chose de passif, si on ne pense plus à quelque chose pendant très longtemps, ben ça va s'évaporer, ça va quitter donc le contenu de la mémoire, mais ça va rester dans un petit coin quand même. Et puis vous avez une autre forme d'oubli qui est alors là, plus on a la psychopathologie, hein, qui est une forme d'oubli actif, qui est là le refoulement. Le refoulement, c'est quelque chose d'actif. Voilà, donc il y a deux facettes finalement dans la vie, et la vie psychique est marquée par ces deux pôles, qui sont deux pôles de la mémoire, et que je dirais qu'ils sont complémentaires l'un de l'autre. Il n'y a pas de vie psychique sans souvenir et sans oubli, parce que imaginez, si vous deviez vous souvenir de tout ce qui se passe dans votre vie à chaque moment, ce ne serait pas possible. Et donc, il y a un phénomène de saturation de la mémoire qui fait que pour penser, on a besoin aussi d'oublier. Donc, les deux pôles sont complémentaires et moi, je ne les opposerai pas l'un à l'autre.
Si vous ne deviez garder qu'un seul message à faire passer par votre essai, qu'est-ce que ce serait ?
Alors, un seul message ?
Oui.
C'est une question un peu compliquée.
En fait, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre au-delà de la réactualisation d'un essai que vous aviez après les événements du 7 octobre ?
Alors, moi, ce qui m'a incité vraiment à l'écrire, c'est un petit peu les réactions que j'ai eues de mon entourage. Et je me suis rendu compte que finalement, les gens étaient un peu perdus et on ne savait pas du tout comment réagir à cette tragédie. Donc, si vous voulez, moi, le message, si vous me demandez quel message je privilégierais, ce serait plutôt quelque chose de l'ordre de l'espoir et de la thérapeutique. Voilà. Et donc, utiliser finalement autant que faire se peut les événements traumatiques pour, on parle beaucoup de résilience, c'est un terme assez courant, mais je pense que j'insisterai plutôt sur ce côté-là.
Il y a une très belle citation du Deutéronome hein, qui dit « Et tu choisiras la vie ». Est-ce que ça pourrait être un petit peu la ligne directrice ?
Tout à fait. La vie et l'espoir. Hein, je pense qu'il n'y a pas de vie sans espoir. D'ailleurs, si on se penche sur le titre de l'hymne de l'État d'Israël moderne, c'est la Hatikva qui veut dire ce que ça veut dire, c'est l'espoir. Et donc, malgré tous les traumatismes, le peuple juif est toujours plein d'espoir et c'est une force qui doit nous faire avancer vers un avenir constructif. Voilà ce que j'aurais à dire.
Youssef, est-ce que vous avez accepté facilement ce projet de livre ?
J'avais très envie, en fait, de retrouver mon ami Gérard Allouche dans un travail commun. Et dans nos discussions synagogales, ce projet est né et ça nous a amené à quelque chose qui est très signifiant, en fait. Ça veut dire la mémoire, le traumatisme, ce sont des mots que l'on emploie, qui nous marquent. Et moi, ce qui m'a aussi interpellé à un moment dans ce livre, c'est, mais peut-être Gérard va nous en dire un mot, c'est la notion du caducée.
Qui est représentée sur le visuel du livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, justement ?
Oui, alors, si vous voulez, la couverture du livre, on est à la radio, donc on ne la voit pas, mais si vous voulez, le caducée, finalement, la couverture du livre condense relativement bien, finalement, le contenu de l'ouvrage. Alors, je la décris pour ceux qui ne peuvent pas la voir. Vous avez un serpent qui se trouve en bas dans les ténèbres. Le serpent se transforme en un vave. Qui est surmonté d'un point voyelle haut qu'on appelle le cholam et qui se percute dans la lumière qui se trouve en haut de la couverture. Si vous voulez, alors ça évoque, à mon avis, ça c'est un peu l'image qu'on a voulu représenter avec Youssef, ça ressemble tout à fait à un caducée médical. Alors le caducée, vous savez, médical ou d'autres confréries, représente un serpent qui est entouré autour du bâton. Alors dans le livre, j'analyse un petit peu ce que ça peut représenter comme symbole. Alors symbole de la médecine, oui, mais vous avez le serpent qui est quand même un quelque chose d'assez ambivalent. Le serpent, alors on peut le comparer à Yetzerara, si vous voulez, voire à Amalek, mais le serpent a aussi des vertus médicinales. Donc, un symbole, on va dire, à double polarité, qui figure dans le caducée médical. Et donc, finalement, on voit comment ce symbole-là peut avoir deux faces. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à la thérapeutique. Cet ouvrage, il est aussi pas mal centré sur la thérapeutique et on retrouve dans différents symboles et évidemment dans l'analyse que je fais de l'interprétation du caducée médical par l'intermédiaire d'un signifiant, qui est le Vav.
On peut parler aussi de la préface qui est signée du rabbin Moshe Levin. Pourquoi a-t-il accepté ? Pourquoi a-t-il été sollicité ?
Alors, le grand rabbin Moshe Levin, alors on se connaît depuis très très longtemps, puisque c'est le rabbin, il se trouve que c'est le rabbin de ma synagogue. Alors c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui on échange régulièrement. Alors, forcément, quand j'ai écrit cet ouvrage, je lui ai fait lire et donc je lui ai évidemment demandé s'il pouvait me faire l'honneur d'accepter d'écrire une préface, ce qu'il a fait avec tout à fait volontiers. Et donc on peut dire que finalement, cet ouvrage, il est un produit de notre communauté, puisqu'on fréquente Youssef, le grand rabbin Moshe Levin et moi-même, la même communauté qui est celle du Rassi. Et donc, c'est un peu, si on peut s'exprimer comme si, une espèce de travail d'équipe.
C'est une communauté que je connais bien aussi. Effectivement, le Moshe Levin est maintenant grand rabbin. Il y a une question classique, mais non moins difficile pour terminer cette émission. Si, en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre livre, Gérard Allouche, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Eh bien, je dirais que finalement, on peut avoir l'impression de quelque chose d'assez compliqué, mais c'est vraiment une approche qui est universelle et que chacun pourra comprendre parce qu'on peut tous s'identifier aux événements qui se passent actuellement. En même temps, c'est quelque chose qui est un peu atemporel, si vous voulez. Et donc, ce serait plutôt une analyse un peu du traumatisme, de la mémoire, un peu au sens large. qui pourrait s'appliquer finalement à toutes les époques et qu'on pourrait actualiser. Voilà, donc c'est plutôt aussi pas mal de conseils un peu pratiques sur la fin, des choses qui sont liées à la résilience du traumatisme. Évidemment, étant donné ma profession, c'est quelque chose sur lequel je suis relativement sensible.
Alors je vais compléter avec mon analyse personnelle, hein, puisque j'ai le livre entre les mains et c'est vrai qu'il se lit très facilement et qu'on est un peu désarçonné. Depuis quelques mois, on a des questions, on n'a pas forcément des réponses et votre livre contribue à penser des plaies et à apporter des réponses à des questions qui nous taraudent et rien que pour ça, je pense que votre livre est une réussite. Donc merci beaucoup. Est-ce que Youssef, vous voulez dire le mot de la fin ?
Avec plaisir. Je reprendrai juste la couverture. La couverture représente ce vave. Le vave, c'est un crochet. C'est aussi la conjonction de coordination et. Sandrine et Youssef. Sandrine V. Youssef. Et ce vave représente un peu ce que nous faisons dans les éditions. Le judaïsme et l'universalisme. Le côté... particulier d'une médicale de la psychiatrie et une tradition ancestrale.
Et la conjonction de coordination qui rassemble les gens, tout simplement.
Exactement, exactement. Et bien entendu, les problèmes, les enjeux, les défis un peu effrayants et l'espoir et la vie.
Merci beaucoup Youssef Azoulay des éditions Lishma et le docteur Gérard Alouche qui est l'auteur de Mémoire et traumatisme dans le judaïsme. Souviens-toi et n'oublie pas, une approche analytique qui vient de paraître aux éditions Lishma et que nous recommandons vivement. Bonsoir et à très bientôt.
Bonsoir.
Au revoir Sandrine.
Au revoir.
Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.